Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, tout à fait au sud de la France, commence l'un des plus gros pèlerinages qui existent dans l'Hexagone. 20 000 personnes sont arrivées ici à Lourdes, soit la ville de Cahors et un peu plus que la ville de Pamiers qui tout à coup commence dans la cité mariale ce pèlerinage pour 4 jours. 4 jours de prières, de conférences, d'enseignements pour un peu aller sur mesure pour les croyants et les chercheurs de Dieu. Cette émission Vivante Église, donc le rosaire à son pélé en direct donc depuis les sanctuaires de Lourdes, avec autour du plateau pour nous parler de ce pèlerinage. On a réussi à capter quelques pèlerins et en plus quelques organisateurs, une prouesse. Honneur aux dames, Anne-Sophie Thibert-Guien, vous êtes pèlerine ici, bonjour.
Oui, bonjour.
Aline Assoignon, vous êtes hospitalière, bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Guyot, vous êtes brancardier et président de la Fédération du Pèlerinage, bonjour.
Bonjour.
Et Olivier de Saint-Martin, vous êtes dominicain et directeur du Pèlerinage du Rosaire, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, on vous remercie vivement en tout cas d'être présent ce matin. Beaucoup de choses à dire sur le pèlerinage, je le disais en introduction, pour essayer de faire en sorte qu'on se rende compte de ce que ça représente comme événement, c'est quand même la ville de Cahors qui débarque, un peu plus que la ville de Pamiers, et Lourdes va plus que doubler. C'est un raz-de-marée, frère Olivier, qu'est-ce que vous diriez sur ce nombre colossal ?
Je ne sais pas si c'est un raz-de-marée, parce que la connotation du raz-de-marée, elle est...
En ce moment, elle n'est pas très bienvenue. Oui,
non, voilà, enfin, c'est vrai, c'est dangereux. Je dirais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est vrai que, d'Haïti à la Réunion, en passant par la France métropolitaine et la Corse, nous venons d'un peu partout, de la ville, de la campagne, et le pèlerinage du Rosaire a cette chance, avec la famille dominicaine, organisée par la famille dominicaine, de rassembler des personnes extrêmement diverses, scolaires, pèlerins qui présentent des handicaps, enfin qui ont des handicaps ou des maladies, des bénévoles, des pèlerins qui sont croyants convaincus, d'autres qui cherchent Dieu. Un rassemblement extrêmement divers. Et qui en 4 jours, c'est un des challenges, c'est qu'en fait de personnes extrêmement diverses, nous parvenions à former, une famille.
Alors ce pèlerinage donc est ancien, hein, cette année on fête donc les 110 ans du pèlerinage, si j'ai bien compris, et en même temps donc que les 160 ans des apparitions. Comment vous le présenteriez pour ceux qui ne le connaissent pas encore ? C'est le pèlerinage des Dominicains, mais j'imagine qu'il y a plus que ça à dire.
Bon, il faudrait que chacun d'entre nous puisse dire ce qu'est le pèlerinage du Rosaire pour lui. C'est vrai que donc c'est notre 110e pèlerinage. L'année dernière, sous l'impulsion de Dominique Guilleux, qui est là avec nous, on a fait une enquête et on s'est rendu compte qu'en fait, les pèlerins n'étaient peut-être pas exactement ceux qu'on croyait connaître. Notamment que nous avions, parmi nos pèlerins, j'aime bien le qualificatif que vous donnez, de 40% de chercheurs de Dieu, 40% de personnes qui se disent un peu loin de l'Église, de la pratique religieuse, et qui viennent. Et pour nous, un des moteurs de la programmation des conférences, des activités de cette année, ça a été de se dire comment chacun peut essayer de trouver une porte d'entrée. J'aime beaucoup à Lourdes, en fait, il y a plein de portes pour rentrer dans le sanctuaire. Et chacune de ces portes nous dit que pour accéder à Dieu, il y a plusieurs moyens. Jésus dit dans l'Évangile qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et ce qu'on voudrait, je crois, à travers tout ce qu'on fait dans le pèlerinage, alors moi je parle plus des conférences puisque j'organise les conférences, mais Aline pourrait parler, et Dominique pourrait parler, eux, de tout le travail de l'hospitalité, de l'accompagnement des personnes qui sont en accueil. C'est d'essayer de permettre à chacun une expérience, j'ai envie de dire, familiale, parce qu'effectivement c'est organisé par la famille dominicaine, mais aussi et peut-être surtout une expérience personnelle.
Alors, on donnera la parole hein, aux différents invités au long de l'émission. Peut-être juste un petit mot, Anne-Sophie, pardon, excusez-moi, Alina Soignon. Vous, je ne sais pas, avec vos mots, comment vous présenteriez ce pèlerinage? Est-ce que pour vous, c'est comme vient de le dire le frère Olivier, c'est une réunion de famille, mais à laquelle on s'attache, enfin, on s'attache d'être attentif et ouvert à ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme des cousins éloignés? Qu'est-ce que vous diriez?
C'est effectivement une grande réunion de famille, et une réunion de famille avec des cousins qu'on ne voit pas très souvent. Pour lesquels on a des nouvelles de temps en temps à longueur d'année, et les retrouvailles sont toujours très fortes, très riches en émotions. On attend ce moment et beaucoup d'entre nous décomptent avant d'arriver et se repasse le film de ces 4 jours, parce que c'est vrai que ça passe très vite, mais c'est un film qu'on se repasse pendant de nombreux jours, de nombreuses semaines, et dans les mois qui suivent, effectivement.
Voilà, comme tout, probablement tous les grands événements de la vie. Enfin, vous voyez, en tout cas, Anne-Sophie Thiberguien, vous êtes presque déjà membre de la famille, puisqu'on vous considère déjà comme une cousine éloignée. J'aimerais, avant qu'on parle un peu de cette édition de cette année, comment ne pas en faire l'économie, parce que même sur cette radio présence, en tout cas le matin, on ne parle pas si souvent que cela des apparitions de Lourdes, et probablement que, comme l'évangile, on n'a jamais fini de creuser. Que dit ces apparitions du chapelet ou du rosaire? Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc le chapelet, on va dire, c'est la version courte, la méditation de 5 mystères, et le rosaire, c'est la version longue, peu importe. Est-ce que ça a une place dans les apparitions de Lourdes, frère Olivier de Saint-Martin, quand Bernadette fait face, donc, au début, à quoi, une jeune fille blanche, c'est ça, au début?
Bernadette a dit à Quero cela. Alors, il n'y a pas de... Le rosaire est venu très naturellement, j'en veux dire, à Lourdes. C'est d'ailleurs comme ça que le pèlerinage du rosaire est né 50 ans après bien des pèlerinages, puisqu'on avait deux frères en 1908 qui étaient sur la balustrade, et puis qui regardaient les gens prier le chapelet, et puis les dominicains qui aiment accompagner la prière du chapelet, se disent l'un à l'autre, enfin c'est quand même curieux, nous qui incitons les gens à prier le chapelet, on est les seuls à pas venir à Lourdes. Donc c'est comme ça que le pèlerinage du rosaire est né. Moi je crois qu'en fait le chapelet à Lourdes tient une grande place, bon, non seulement parce que
Bernadette, on dit que c'était une des rares prières qu'elle connaissait.
Le prier, oui. C'est-à-dire que c'est une prière, dès ses origines, qui est une prière qui est extrêmement simple. Et je crois que c'est une prière justement d'évangile. Au fond, Bernadette, quand elle revient en 1858, pendant l'hiver à Lourdes, c'est parce qu'elle veut préparer sa première communion. Puis Bernadette, elle a une difficulté, elle est analphabète. Elle est d'une famille qui est extrêmement pauvre, qui connaît un peu, je dirais, toutes les hontes qu'on peut avoir, pauvreté sociale.
Son père n'a pas de travail à l'époque.
Son père n'a pas de travail. Son père.
On dit même qu'il restait allongé pendant la journée pour économiser ses forces.
Il y a de ça. Je crois que on ne le dit pas trop, mais son père a François Soubirou, Bernadette dit combien elle a été aimée par son père, par ses parents. Mais son père buvait beaucoup. A un peu coulé l'entreprise familiale parce que il savait pas réclamer les dettes, et puis il buvait avec les gens. Et Bernadette, il y a plein d'opprobre, je dirais, qu'elle peut avoir. Et puis elle est analphabète, elle ne connaît pas non plus son catéchisme. Et c'est une époque où, pour préparer sa communion, on avait l'examen, le jeudi on allait au catéchisme, et puis on devait réciter la leçon, et puis on était noté. Elle en est incapable. Elle ne parle pas français, elle est analphabète, elle ne peut pas retenir le catéchisme.
Donc, en tout cas, elle sait prier le chapelet.
Alors, elle sait prier le chapelet, qui est une prière en fait très simple. Qu'est-ce que c'est le chapelet? C'est au fond... un moyen aussi mnémotechnique, c'est-à-dire garder en mémoire un certain nombre d'épisodes de la vie de Jésus. Je veux dire, le catéchisme devrait nous conduire à mieux connaître la vie de Jésus pour que elle prenne chair un peu en nous, quoi. Il ne faut pas que la foi soit quelque chose d'intellectuel, il faut que la foi nous conduise à changer chacun de comportement pour aimer plus Dieu et les autres. Et donc, oui, elle connaît le chapelet, c'est-à-dire le chapelet, une prière répétitive à la Vierge Marie, comme un petit enfant qui demanderait à sa maman de lui raconter encore et encore la même histoire.
Donc première apparition, c'est ce qu'elle fait. Vous me disiez, on prépare l'émission, hein, donc elle récite instinctivement le chapelet.
Instinctivement, elle sort son chapelet et elle prie le chapelet. Et puis elle va le faire, les trois premières apparitions, il n'y a rien d'autre.
Est-ce que la Vierge, à un moment, je ne sais pas, lui parle du chapelet ou du rosaire, ou l'incite à le prier?
Non, c'est... Non,
dit,
naturellement,
la Vierge
a le chapelet. La Vierge touche les grains du chapelet pendant que Bernadette prie, mais c'est naturel. Et en fait, toute la catéchèse de Marie à Bernadette va être au long des apparitions, je veux dire, une catéchèse... extrêmement sensible, extrêmement, je dirais, charnel. C'est-à-dire qu'on va passer avec de l'eau, le rocher, le feu. Et en fait, on trouve un tas de fondements bibliques et qui sont comme en correspondance avec le mystère du chapelet. Dans le mystère du chapelet, je pense à des épisodes de la vie de Jésus. Et en fait, la Vierge Marie va donner des clés à Bernadette pour vivre sa vie chrétienne. On ne va pas faire une catéchèse intellectuelle, on va donner des clés pour vivre.
Est-ce qu'on peut dire un mot aussi des pèlerins à l'époque autour? Parce que il n'y aura pas d'apparition probablement lors de ce pèlerinage du Rosaire 2018, mais les pèlerins quelque part seront en partie dans la même attitude. À l'époque, les pèlerins venaient, ils accompagnaient Bernadette et puis récitaient aussi le chapelet pendant ces apparitions, non?
Oui, et puis moi je crois que les pèlerins seront profondément dans la même attitude parce que beaucoup cherchent Dieu. Et Bernadette, enfin la Vierge Marie apparaît directement à Bernadette sans aucune médiation. Et quelque part, je pense qu'un certain nombre de personnes qui viennent à Lourdes, pas toutes, hein, mais un certain nombre de personnes qui viennent à Lourdes se disent « Et si ça valait pour moi aussi ?
Si Dieu existait,
quelque part,
ou s'il s'intéressait à moi aussi ?
Est-ce que je peux avoir quelque chose de ce qui s'est passé pour Bernadette ?»
On sait que la Vierge Marie a vouvoyé aussi Bernadette.
Ça l'avait
beaucoup touché, ça l'avait
bouleversé. Ça, c'est extraordinaire. Elle lui parle en patois. Ça, c'est génial. Enfin, la langue à l'époque, c'est le latin dans l'Église. Enfin, c'est le latin, c'est le français. Elle lui parle en patois, elle la vouvoie, et elle lui demande « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Bernadette, en repartant, dit « Elle m'a parlé comme une personne parle à une personne. » Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'au fond, cette jeune fille, cette jeune femme, 15 ans... on ne lui avait jamais parlé comme ça. Pour la première fois, elle existait comme une personne. Et elle existait comme une personne dans le patois. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça devrait être ça, notre pèlerinage.
Est-ce que vous pouvez dire un mot? On ne va pas faire, comment dire, on va pas ne parler que des apparitions, mais peut-être aussi du signe de croix que semble-t-il, la Vierge Marie a appris sans parole, en fait, à Bernadette. Voilà, on dit que Bernadette, parfois, en ressortait grave de ses apparitions, prenant conscience probablement de ce que signifiait le signe de croix. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus?
Bah, je crois que c'est vraiment ça. Il y a... On a plusieurs manières, mais même entre nous, de se dire bonjour. Vous savez, il y a le pèlerinage du Rosaire. Donc, il y a plein de monde qui passe sur l'esplanade. On se dit bonjour. Et puis, est-ce qu'on est vraiment à la personne à laquelle on parle? Pas toujours. On a nos yeux qui circulent. On aperçoit quelqu'un. On a des bonjours qui sont très délavés, parfois. Entre nous, hein. Ben, je pense que le signe de croix, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je peux avoir un signe de croix extrêmement machinal, où je peux avoir un signe de croix qui est plus lent, qui me met en présence, c'est-à-dire qui m'aide à prendre conscience aussi que je me mets en présence de Dieu. Je pense pour moi, à travers le signe de croix, mais c'est analogue, c'est Isabelle Rivière qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle « Le bouquet de roses rouges » et qui raconte que justement dans sa recherche de Dieu, un jour, elle passe, c'était rue Monsieur, les bénédictines à Paris, et elle voit une bénédictine qui fait une genouflexion tranquille, calme. Et elle dit, ce jour-là, je me suis dit qu'il y avait quelqu'un. Parce que...
Quelqu'un dans l'église.
Dans l'église. Parce que ce n'était pas un truc vite fait, rapidement fait. Et Isabelle Rivière dit que le début de son cheminement, ça a été de voir cette religieuse qui, gravement, simplement, prenait du temps pour saluer quelqu'un.
Avant qu'on fasse une première pause, est-ce que vous pourriez nous mettre en bouche, on essaiera de développer ça donc dans la deuxième partie, sur ce pèlerinage. Ce pèlerinage a un grand thème, j'imagine que quand même il réunit un petit peu tout ce que vous allez essayer de vivre, et puis vous allez m'aider parce que j'ai honte, mais je ne le retrouve pas.
Le thème, c'est « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Alors j'inverse parce que souvent on dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Je préfère tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est tout ce que Jésus vous dira, ce qui présuppose de notre part une certaine écoute. Et au fond, je voudrais que dans ce pèlerinage, nous nous mettions à l'écoute de ce que nous dit Jésus, que nous nous mettions à l'écoute les uns des autres, des questions des uns des autres. Les conférenciers qui viennent ont quelque chose à nous apporter. On peut ne pas être d'accord avec tous, d'ailleurs, ça, c'est pas du tout interdit. On peut avoir des débats, mais que nous apprenions à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute les uns des autres, parce que je trouve que parfois dans notre monde sursaturé de vitesse et de réponses, en particulier sur les réseaux sociaux, on prend plus le temps de s'écouter, on prend plus le temps de voir un visage, de comprendre que derrière une intonation, il y a des questions, il y a une épreuve, il y a une souffrance, derrière une colère. Et dans ce pèlerinage, c'est d'apprendre à écouter pour ensuite essayer de mettre en pratique, pour ensuite essayer de répondre personnellement à ce qui nous est proposé.
Voilà, c'est le pèlerinage du Rosaire donc qui débute ce matin. Vous êtes évidemment les bienvenus, je le dis de la part d'Olivier de Saint-Martin et de tous ceux qui l'accompagnent. Pèlerinage donc jusqu'à samedi prochain, qui propose, on en parlera après, un vrai parcours et de multiples choses, du sur-mesure, comme le disait le frère Olivier de Saint-Martin, des catéchèses, des tables rondes, des écoles de prière, une retraite, bref, mille et une choses. On voit ça tout de suite après la pause.
Emmanuel Pella.
Le Rosaire fait son pélé, c'est donc le thème pour rappel de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes donc en direct depuis Lourdes, où a commencé ce pèlerinage, où près de 20 000 personnes sont arrivées ou vont bientôt arriver, en plus de tous ceux qui vont les rejoindre. Et autour du plateau, donc, Alice Assoignon, qui est hospitalière, Anne-Sophie Tiberguien, qui est pèlerine, Dominique Guyot, président de la Fédération du pèlerinage et également brancardier, et Olivier de Saint-Martin, dominicain, directeur du pèlerinage du Rosaire. On a donné le thème donc de cette année et le saviez-vous, je vais vous poser la question, Anne-Sophie Tiberguien, savez-vous qu'il y a comme une logique au long de ces 4 jours, comme un parcours initiatique? Vous a-t-on prévenu?
Je suis au courant de rien.
Ah bah, très bien.
Comme parce ça. Que vous cherchiez quelqu'un de peu pratiquant et vous l'avez trouvé.
Eh bah, c'est parfait. Vous voyez, je ne vous taquinais pas, mais comme ça, ça va vous mettre en bouche pour la suite. Il y a donc une logique de fond à ces 4 jours, ce qui n'empêche pas d'arriver peut-être quand on le peut, hein, en fonction de ses disponibilités. Je pense entre autres à ceux qui pourront arriver peut-être que le vendredi soir. Parlez-nous de ce cheminement que vous invitez, que vous voulez essayer de faire avec les pèlerins, Olivier de Saint-Martin?
Alors, on va essayer de mettre en... J'espère que ça mettra l'eau à la bouche de Sophie Thibérien. Mais
pour l'instant, elle n'a pas sorti son billet de retour. Donc,
En fait, on va essayer de mettre en pratique, d'écouter, de laisser une parole de Jésus par jour descendre en nous pour essayer de la faire passer de nos oreilles à notre cœur et de notre cœur à nos mains. Donc, chaque jour aura une thématique globale. Et puis, au milieu de la journée, beaucoup de conférences, de tables rondes seront proposées.
Donc la thématique, aussi. Mercredi, alors, le pardon.
Mercredi, ce sera le pardon. Essayez de s'ouvrir au pardon offert et reçu. Le pardon est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué en fonction de nos blessures, de la profondeur de la blessure. On ne peut pas exiger le pardon. C'est le fruit d'un long cheminement, parfois souvent douloureux. Mais d'essayer de se confronter, d'entendre Jésus qui nous propose, qui nous demande de nous pardonner les uns les autres, d'oser demander pardon, d'oser recevoir le pardon, d'oser offrir le pardon.
Donc le pardon, ça c'est pour le mercredi?
Ça c'est le premier jour. Essayer de dans nos vies quotidiennes, dans nos vies familiales, dans nos vies communautaires, de religieux, d'ouvrir nos cœurs à la puissance du pardon. Encore une fois, je parle bien des choses quotidiennes. Le jeudi, nous allons essayer d'entendre et de mettre en pratique la parole de Jésus, d'être serviteur à travers le geste du lavement des mains ou des pieds qu'on proposera sur la prairie. Le jeudi, c'est le jour où nos hospitaliers, nos bénévoles, pour ceux qui ont 5 années ou plus de service, peuvent, s'ils le souhaitent, s'engager plus durablement. Le vendredi, nous essaierons d'entendre et de mettre en pratique le commandement de Jésus qui nous enseigne à prier, apprendre à prier les uns pour les autres, c'est-à-dire apprendre à se porter les uns les autres. Moi, je suis très touché, on arrive à Lourdes, on nous a confié 10 356 intentions de prière. 10 356 intentions de prière.
C'est-à-dire que vous avez en amont essayé de faire en sorte de faire de la communication.
Des internautes nous ont envoyé. 10 356.
Donc ça fait 30 000 personnes présentes presque.
Enfin, ça veut dire.
Il faut les porter.
Les gens nous les confient. Et puis on va en avoir pendant le pèlerinage aussi. Et le vendredi, donc chaque pèlerin, à la fin de la messe, recevra une intention d'un autre pèlerin. Pour dire que nous sommes membres les uns des autres. Les joies des autres peuvent devenir mes joies, mais leurs douleurs peuvent aussi devenir les miennes. Nous sommes membres d'un corps. Et puis le samedi, la messe d'envoi, c'est de dire ce qu'on a reçu, il faut essayer de le partager. Alors si vous avez vécu de belles choses, partagez-les. Donc on donnera à chaque pèlerin qui le souhaite une carte postale qui pourra écrire à quelqu'un en disant voilà une grâce que j'ai vécue. Et ceux qui n'auront pas vécu de grâce ou qui ne seront pas contents de ce qu'ils auront vécu n'enverront pas de carte postale.
Dominique Guilleux, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce que le frère Olivier de Saint-Martin disait au début de l'émission? Voilà, cette enquête, vous êtes, je crois, vous avez été un professionnel du tourisme et en tout cas conjointement, vous avez donc mené une enquête pour essayer de savoir qui venait. Il y a eu cette surprise qu'a évoqué le frère Olivier de Saint-Martin, donc nombre de pèlerins viennent pour la première fois, mais il y en avait d'autres, vous me le disiez en préparant l'émission, les gens viennent conforter leur foi, pour un temps de ressourcement personnel. Quelles sont un peu les couleurs des pèlerins qui viennent?
Alors les couleurs, elles sont extrêmement différentes. Ce mercredi matin, nous sommes près de 20 000 à avoir répondu à l'invitation des frères dominicains, qui eux-mêmes ont répondu à l'invitation de la Vierge Marie, qui, lors de la 13e apparition, demande à la Vierge qu'on construise une chapelle et qu'on vienne en procession. 110 ans après le premier pèlerinage, nous sommes 20 000 ce matin qui venons ouvrir une parenthèse. C'est une façon dont le pèlerinage du Rosaire aime se présenter. C'est une parenthèse qui est très importante pour nous, comme l'a souligné Aline tout à l'heure. Mais c'est une parenthèse où chacun arrive avec sa propre vie, qui est des vies de gens qui ont des âges très différents, qui ont des parcours très différents.
Alors ça, Olivier le disait au début, mais dites-nous un peu les raisons pour lesquelles les gens viennent ici.
Traditionnellement, bien entendu, venir vers un sanctuaire marial, l'un des plus grands sanctuaires mariales, bien sûr, français ou du monde entier, c'est une démarche vers la Vierge Marie. Ça, c'est une des premières motivations. Il y a une motivation très importante aussi qui correspond bien, je dirais, à la vocation des frères dominicains, celle de conforter sa foi. Et puis, on s'est aperçu lors de l'enquête auquel le frère Olivier a fait référence tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup de pèlerins qui venaient avec leurs questionnements sur leur foi, sur leur approche de l'Église, et qui avaient besoin de cette parenthèse pour se conforter, pour se ressourcer. Ce mot est un mot-clé. On est dans un monde complexe, un monde difficile, etc. Et il y a tant de ressourcements dont on a besoin. Or, le véritable visage d'un pèlerinage en 2018, c'est un moyen de venir se ressourcer. D'où l'idée que dans ce pèlerinage, il y a des grands temps qui sont des grands temps communs de prière. Le matin, les laudes et la messe.
Matin, midi et soir, si j'ai bien compris,
le
c'est
matin,
ça
oui. À 16h30, la procession eucharistique et la procession mariale du soir. Et entre ces temps, la force de notre pèlerinage, c'est d'offrir un parcours à la carte pour que chacun de ces 20 000 pèlerins que nous sommes trouve des réponses, soit dans des échanges possibles avec des frères dominicains, des sœurs dominicaines, soit en assistant à des conférences, en écoutant des témoignages. Et c'est vraiment cette volonté d'apporter au maximum des réponses personnalisées à 20 000 personnes qui ont choisi de mettre une parenthèse dans leur vie pendant 4 jours, ici à Lourdes, pour répondre à l'appel de Marie et des frères dominicains.
Alors peut-être, on vous donnera un peu la parole un peu plus longuement après Anne-Sophie Tiberghien, mais est-ce que vous vous retrouvez dans le profil du pèlerin qui vient pour faire une pause dans son quotidien et pour avant tout chercher un ressourcement personnel? On dit qu'aujourd'hui, quand les gens se posent des questions, ils se tournent en partie vers les sanctuaires. On sait que les sanctuaires en France ont un très grand succès et de gens qui ne sont pas forcément des catholiques pratiquants. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ce profil?
Oui, moi je viens ici pour une aventure spirituelle. Je viens pour comme me mettre devant une fenêtre qui s'ouvre. Je viens pour voir de près, rencontrer de près cette famille dont parlait Aline tout à l'heure, que j'appellerai avec mes mots une tribu de... Je viens ici pour rencontrer une tribu de pratiquants catholiques, voir à quoi ça ressemble de près, quoi, dans leur rituel et leur grande journée, grands événements.
Alors vous allez être en partie déçu, parce que si j'ai compris, il y en a quand même d'autres de votre espèce qui ne sont pas membres de la tribu, mais non, c'est une taquinerie.
Comment
évidemment.
Est-ce que vous pouvez savoir que je suis déçu? Qu'est-ce que vous...
Non, je vous taquinais, c'était juste une manière de rappeler qu'il y a, comment dire, vous n'êtes pas la seule à venir avec ces dispositions d'esprit. Olivier de Saint-Martin.
Oui, c'est, moi, j'aime bien le, enfin, famille, tribu, mais c'est, moi je crois que quelque part, parfois on se retrouve justement plus proche qu'on ne le croyait. Les uns des autres. Hein. Et je crois que, enfin, voilà, les 40 personnes, les 40% de personnes qui comme vous, cherchent, je pense, enfin, je l'ai dit un jour dans une conférence, ben, c'était à Lille. En fait, sont les meilleurs représentants de ce que nous sommes tous. C'est-à-dire que, je veux dire, on peut être pratiquant.
Et ne plus chercher.
Ben, je pense que ce serait un drame. Hein. Et qu'au fond, on est là pour chercher.
Mais j'ai une question à vous poser, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être pratiquant, ouais, enfin dans les fêtes, ça veut dire quoi? Et quand vous parlez, ça fait plusieurs fois que vous vous exprimez en « on », vous parlez au nom de qui en disant « on » et ça veut dire quoi être pratiquant, en fait, dans votre tête, vous, monsieur le journaliste?
Alors moi, en général, dans les émissions, c'est pas moi qui réponds aux questions, mais, et puis le « on », en l'occurrence, c'est peut-être une maladresse de langage, je sais pas, pour cette courte question, même si ça se veut pas une émission où on se pose trop de questions entre nous, qu'est-ce que vous diriez peut-être un pratiquant? Est-ce que ça peut être intéressant aussi pour les auditeurs qui se disent pratiquants d'arriver peut-être à reformuler ce qui serait juste et peut-être leur donner envie de venir.
Personnellement, je crois que être pratiquant, c'est essayer de vivre l'Évangile. C'est essayer de vivre l'Évangile. Il y a la pratique cultuelle, religieuse. C'est ce que globalement les enquêtes font ressortir sur le taux de pratique religieuse, quelque chose d'objectif. Combien de personnes, combien de fois par mois allez-vous, n'allez-vous pas à la messe? C'est ce qui va déterminer une échelle de pratique. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement aussi biaisé. C'est-à-dire que je crois que le pratiquant, c'est celui qui... Enfin, je crois... Le pratiquant, c'est celui qui essaye de mettre en pratique l'Évangile.
On en reparlera, hein, et puis évidemment vous pourrez en discuter hors antenne, ça va de soi, et puis vous aurez du temps, ça tombe bien. Dominique Guyot, est-ce que vous pouvez, pour tous ceux qui ne sont pas là et qui peut-être voudraient nous rejoindre, nous dire les grandes propositions? Difficile de résumer tout ce qui va être donné. Vous disiez, il y a des grandes catéchèses, il y a des tables rondes, des écoles de prière. Voilà, on peut y trouver, on va dire, des temps forts spirituels, des enseignements, mais aussi on aborde aussi des sujets de société. Comment vous présenteriez les grandes catégories de ce qui est proposé pendant ce pèlerinage?
Je dirais d'abord, il faut rassurer les auditeurs et puis les pèlerins du Rosaire. Le programme est tellement riche que, de toute façon,
ils s'ennuieront pas.
Absolument. Participer à toutes les propositions, etc. C'est un programme extrêmement riche. Il y a près de 70 thèmes qui vont être abordés lors de ces conférences, ces catéchèses, etc. Ce qui est très important, je reviens sur cette idée, c'est que ce programme, il est axé autour, je dirais, de l'échange, de la foi, de la société et de la prière. Échange parce que possibilité pour ces 20 000 pèlerins qui sont là ce matin, au cours du pèlerinage, d'échanger, de rencontrer d'autres pèlerins, des hospitaliers, des frères et des sœurs dominicaines, de conforter leur foi par un certain nombre de catéchèses, de conférences, d'aborder la prière,
donc les catéchèses,
apprendre à prier.
Quel est donc le bonheur que Dieu veut? Dieu a-t-il voulu l'Église? Dieu veut-il vraiment tout pardonner? L'homme peut-il tout pardonner? Non, mais j'en cite quand même quelques-uns.
Absolument. Et puis, apprendre à prier aussi, donc ces écoles de prière, particulièrement le soir, et puis aussi, comme le frère l'a expliqué, cette année, peut-être une nouveauté, c'est d'aborder des grands sujets de société. Hein. Des grands sujets de société, l'après-midi de 14h à 16h, autour d'une très grande table ronde. Alors, il y a trois grands thèmes qui sont des thèmes d'actualité. Donc, un thème autour de, je dirais, la jeunesse, puisqu'on aborde le synode de la jeunesse dans quelques jours.
Alors, le synode des jeunes, ça va être un grand rassemblement à Rome.
Rassemblement, donc,
tous les élèves du monde entier sur le sujet de la jeunesse.
Grande table ronde de mercredi autour, justement, de la complémentarité entre les générations. Des grands thèmes, les grands thèmes thématiques.
La révision des lois de bioéthique, après.
Exactement, voilà. Et puis aussi, les grands sujets d'actualité, comme on l'a évoqué tout à l'heure, liés, à un certain nombre de.
Les migrants, une société de l'accueil, est-elle.
Voilà.
Ça, c'est pour les sujets de société.
Hein. Voilà.
Lourdes, jeunes et vieux, tous ensemble, les enjeux des révisions de lois de bioéthique et une société de l'accueil est-elle une utopie? Olivier de Saint-Martin.
Oui, alors à travers ces tables rondes, ce qu'on a voulu aussi, qui dit table ronde dit des éclairages différents, qui dit des éclairages différents dit aussi des personnes qui peuvent ne pas être d'accord sur tout. Et en fait, ce qu'on a voulu honorer à travers ces tables rondes, c'est à la fois la complexité des sujets, parce que les sujets dont on parle et sur lesquels on a des avis parfois très affectifs, et qui nous empêche d'écouter les arguments les uns des autres.
Alors, est-ce que vous auriez un exemple, une table ronde que vous avez veillé à avoir des profils
toutes, que ce soit. Sur la bioéthique, on aura un juriste, un psychanalyste, un moraliste, une moraliste. Sur la table ronde pour les migrants, on aura Jean-Paul Vesco, qui est évêque d'Oran, donc de l'autre côté de la Méditerranée. On aura Isabelle Roustan, que personne ne connaît, mais qui est médecin en point d'accès. Point d'accès santé, donc en passe, et qui s'occupe de personnes qui sont dans une précarité que personne ne peut imaginer. Un représentant du Secours catholique qui parlera aussi des nécessités, voilà, de la nécessité d'accueillir à la fois celui qui est là et puis d'avoir une vision géopolitique qui est sans doute plus grande. Et puis on aura aussi un ingénieur qui est français, qui a été expatrié en Égypte. Parce que, lui aussi, il a été expatrié, alors dans d'autres conditions. Hein. Mais voilà, de se dire, c'est quoi et j'attends beaucoup, alors ce sera animé par un journaliste, à chaque fois, l'idée étant qu'on réintroduise aussi, qu'on fasse place, qu'on fasse droit à une culture de débat. Voilà, on peut échanger des idées, on peut ne pas être d'accord en s'écoutant et en cherchant du coup ensemble à nourrir son intelligence et à progresser ensemble vers la vérité.
Je vois le temps qui passe, j'aimerais qu'on parle des hospitaliers, puisque donc si ce pèlerinage, fonctionne, c'est qu'aussi de nombreuses personnes s'y donnent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette réalité, Dominique Guilleux? C'est près de 4000 bénévoles. Déjà, comment est-ce que vous présenteriez les hospitaliers? Qui sont-ils?
Parmi les 20 000 pèlerins, il y a quelques 1500 personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour des problèmes de santé, une situation de handicap, etc. Et il y a 4000 autres pèlerins qui sont là en situation de service, de serviteur, pour accompagner ces personnes qui sont dans des accueils qui sont aménagés pour pouvoir mieux les accompagner, faciliter leur séjour. Et voilà ce que sont les hospitaliers, les hospitalières. Et puis, il y a aussi d'autres bénévoles qui sont très importants dans le pèlerinage, qui sont d'abord des hôtesses, parce que 20 000 personnes ont besoin d'informations, besoin de renseignements. Et puis, 400 commissaires qui sont là pour faciliter le bon déroulement du pèlerinage. Et puis des gens qui ont le talent de mettre leur service au service de la liturgie,
la chorale,
à travers de la chorale, etc. Donc il y a un peu plus de 4000 bénévoles, parmi lesquels évidemment 3500 hospitalières et brancardiers, qui sont au service de nos frères et sœurs, qui eux vivent cette parenthèse, mais dans une vie qui est marquée par sans doute la maladie, le handicap, etc. Et il faut absolument qu'eux aussi vivent cette 15 jours de parenthèse ici à Lourdes. Et c'est pour ça qu'il y a donc ces bénévoles qui sont présents ici pour accompagner pèlerins malades.
Les pèlerins malades, c'est un peu les anges gardiens de ce pèlerinage. On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver évidemment nos invités, et particulièrement donc Alina Soignon et Anne-Sophie Thiberguien, qui nous parleront peut-être un peu plus de leur parcours, de leur présence ici, du sens et de leur recherche et de ce qu'elles y trouvent.
Emmanuel Pella.
Le rosaire à son pelé, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes donc en direct de Lourdes depuis les studios de Radio Présence pour ce grand pèlerinage. Je l'ai dit à plusieurs reprises, donc 20 000 personnes sont arrivées dans cette ville, plus semble-t-il que ne compte d'habitants cette ville, pour 4 jours donc de pèlerinage. Autour du plateau, Anne-Sophie Thiberguien qui est pèlerine, Dominique Guilleux, brancardier et président de la Fédération du pèlerinage, Olivier de Saint-Martin, dominicain du pèlerinage du Rosaire, et Aline Assoignon qui est hospitalière. Aline, on a parlé rapidement des hospitaliers, voilà, ces anges gardiens du pèlerinage. Comment vous êtes tombé dans la marmite ? Est-ce que ça fait longtemps que vous venez ici ? Comment a commencé cette aventure ?
Alors moi, cette grande aventure, elle a commencé il y a fort longtemps, en 1980, parce qu'il y a pas mal d'établissements qui proposent le pèlerinage en classe de seconde. Et j'ai eu l'occasion de venir, alors c'était pour le pèlerinage du diocèse au mois de juin, puisque le diocèse de Lille, c'est au mois de juin. Et puis effectivement, comme vous le dites, je suis tombée dans la marmite, d'autant plus que je m'occupais d'une petite fille, Anna, qui n'avait que 10 ans, qui était paraplégique et qui, pendant toute la semaine, m'a dit « Quand je serai grande, je serai guérie et je viendrai pour t'aider à aider les autres comme moi ». Et quand on a 15 ans, c'est assez bouleversant d'entendre ça. Malheureusement, Anna n'a pas pu réaliser son rêve. Mais c'est vrai que quand tout à l'heure, le frère Olivier de Saint-Martin disait que le rôle des hospitalières, c'était de se mettre à l'écoute. Certes, c'est se mettre à l'écoute, mais pour moi, c'est aussi et surtout mettre ses mains à la disposition de ceux qui en ont besoin.
Vous connaissiez un petit peu, enfin vous étiez déjà occupé de personnes malades ou fragiles ?
Pas du tout. Quand je suis arrivée pour la première fois ici, pas du tout. Alors effectivement, quand on vient en classe de seconde, on est plutôt côté salle à manger pour organiser et on n'est pas en unité de vie avec les personnes qui ont vraiment besoin d'être accompagnées tout au long de la journée. Ça passe de 6h30 le matin pour aider les toilettes, l'habillage, jusqu'à tard en fin de journée au moment où elles vont se coucher. Mais c'est vrai que tout au long de la journée, on est présent, on participe et c'est une grande richesse.
Alors comment vous expliqueriez cet engagement qui est d'être hospitalière ? Parce que ce n'est pas seulement comme ça, une fois on décide d'être bénévole, si j'ai bien compris, en fait on s'engage à rentrer dans un service régulier, voire même, si j'ai compris, ça peut être un engagement à vie, non ? C'est ça ?
On vient comme on veut, comme on peut. Et effectivement, au cinquième pèlerinage, on propose, ça n'a rien d'une obligation, on propose un engagement. On s'engage à ce moment-là à venir dans toute la limite de nos possibilités, à revenir à Lourdes, au service des autres.
C'est votre cas, en l'occurrence.
Et c'est mon cas, effectivement. Maintenant, moi, ça n'est que mon 17e pèlerinage et le premier a eu lieu il y a 34 ans. Donc, vous voyez, j'ai quand même eu un an sur deux où j'ai pas pu venir parce que bac en première, en terminale, examen. Après ça, on n'a pas forcément la possibilité de prendre une semaine de vacances quand on travaille à chaque fois. Et puis, la vie, les enfants qui sont petits, il y a des priorités à gérer. Maintenant, les enfants sont grands. Je pense que je suis repartie pour une longue série de pélés.
Vous avez utilisé cette image, vous dites un peu on prête nos mains. Comment vous résumeriez peut-être le rôle d'un hospitalier de manière un peu plus complète ?
Alors, très concrètement, c'est faire ce que le pèlerin en accueil ne peut pas faire tout seul. Donc, ce que je vous disais, bah voilà, on aide aux toilettes, on aide à l'habillage, on emmène aux cérémonies, on participe avec eux. Et puis, de façon plus légère, on écrit les cartes postales, on joue, on rit, on chante, on pleure, on partage vraiment toute cette semaine d'émotions qui est très très forte. On met nos mains à disposition, mais surtout on les laisse ouvertes parce qu'on a beaucoup beaucoup à recevoir et je peux vous dire qu'on revient les bras très très chargés et ça nous fait vivre jusqu'au pélé suivant.
Est-ce que vous auriez un ou deux exemples de personnes comme ça que vous avez rencontrées et ce sont des gens qui vous ont marqué, qui vous ont aidé à avancer, à, comme disait le frère Olivier de Saint-Martin, peut-être à devenir vraiment pratiquant, c'est-à-dire à essayer de mettre en pratique ce que Jésus
conseille. Oui, alors effectivement, un catholique pratiquant, il pratique, mais il est toute sa vie, à mon avis, en recherche. Et quand on est, enfin, on n'a jamais fini de trouver, on n'a jamais trouvé. Oui, alors l'année dernière, par exemple, il y avait une élève infirmière, Peggy, qui est venue, qui, quand elle est arrivée, a dit « Moi, je suis venue parce que je devais faire un stage, c'était très bien. » Et le jour où elle est repartie, elle a dit « Mais quand est-ce qu'on peut s'engager? À partir de quand ?» Et oui, ce que j'ai vécu, c'est tellement fort que, évidemment, je veux revenir. On a la chance d'avoir des pèlerins en accueil qui reviennent, pas forcément chaque année, mais qui reviennent très régulièrement, avec lesquels on tisse des liens. Il y a deux pèlerins, Luce et Sabrina, que je continue à visiter régulièrement au long de l'année, qui ne peuvent pas forcément revenir tous les ans, problème de santé, problème d'organisation, mais qui sont très présents dans nos cœurs, à qui j'ai appelé hier, à qui j'ai envoyé des photos en arrivant, en disant « Oui, bien sûr, moi j'ai la chance d'être arrivé hier, notre pèlerin il commence ce matin, mais bien sûr, tu es dans mon cœur, tu es dans mes prières, tu es dans ma tête, et tu vas le vivre à distance, mais tu vas le vivre avec nous tous. »
Anne-Sophie Thiberguien, même question, même si ce n'est pas le même profil, est-ce que vous pouvez me dire peut-être ce qui a conduit vos pas jusqu'ici? Étiez-vous déjà venu à Lourdes ou à un pèlerinage comme cela, et pourquoi cette année vous avez décidé de revenir ou de venir?
En fait, c'est la première fois que je viens en pèlerinage à Lourdes. J'ai été à un pèlerinage en ex-Yougoslavie qui s'appelle Medjugorje, qui m'avait beaucoup apporté, beaucoup interpellé. Et puis, bon, concernant Lourdes, je suis déjà venue deux fois toute seule en plein hiver, à un moment où j'exerçais un métier de façon itinérante, et j'étais venue faire le tour de tous les endroits en étant toute seule dans l'église et même dans les bains. Et là, ça m'intéressait de venir à un moment donné où les gens de ma région venaient en grand nombre. Je connais des personnes qui y vont, qui y reviennent, et je suis venue voir ça de près.
Et le côté tribu ne vous a pas fait peur? Ou justement, vous disiez tout à l'heure, je viens rencontrer une tribu.
Oui, je parle du mot tribu parce que ça m'apparaît comme ça. On appartient à une tribu, on n'appartient pas à une tribu. Tout à l'heure, vous me disiez, on vous considère déjà comme une cousine éloignée, ça m'a frappé, voilà, c'était dans le terme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour appartenir à la tribu ou pas? Enfin, ça m'interpellait ce qu'a dit le frère concernant être pratiquant. Enfin, voilà, ça, ma réflexion est autour de ça en ce moment. Je pratique à ma façon. J'écoute la messe sur Antenne 2 les dimanches. Voilà. Alors, est-ce que c'est être pratiquant de regarder la messe à la télévision ou pas? C'est une question que je pose. Voilà, c'est pour moi un sujet de réflexion de la part des gens de la tribu en question.
Si c'est pas indiscret, en même temps, je ne vous trompe pas parce que je vous avais dit que je vous poserais la question. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être ce que vous venez chercher? Est-ce que c'est de savoir si, comme disait Frère Olivier de Saint-Martin, à propos de l'apparition de Lourdes, quand Bernadette, à la Vierge qui s'adresse à elle et qui la vouvoie, en tout cas l'attente qui peut être celle des pèlerins au regard de ce qu'a vécu Bernadette, c'est-à-dire que Dieu existe, qu'il s'intéresse à vous, à votre vie, est-ce que c'est des questions comme ça qui vous traversent avant d'arriver?
Je pense que tout pèlerin qui vient à Lourdes, pour la même somme, je pourrais aller passer une semaine au Club Med en Tunisie ou un truc dans le genre. J'ai choisi de venir à Lourdes. Il y a forcément des raisons internes, intérieures, dont je suis consciente ou pas consciente. Tout ce que je sais, c'est que je cherche de l'humanité, de l'élévation, de la chaleur humaine, et je respecte cette partie de mystère en moi qui fait que j'ai envie d'être là. Et je disais tout à l'heure, je viens comme une fenêtre, devant une fenêtre qui s'ouvre, et je fais confiance à cette fenêtre qui s'ouvre devant moi et au paysage qu'elle me fera voir ou ressentir à l'intérieur.
J'avais une dernière question, c'est pareil, pas de surprise, parce que je vous ai pas pris en défaut, c'était est-ce que vous venez, on va dire, en confiance? Parce qu'aujourd'hui, on entend de multiples choses, on va dire, sur l'Église, une période très, très difficile, très compliquée, hein, pour toute l'Église universelle. Le pape François a appelé justement les catholiques pratiquants à s'unir dans la prière. Est-ce que vous venez, cette famille, vous avez a priori toute liberté pour lui faire confiance, ou avec des réserves, des craintes, des
Moi,
interrogations?
Moi, je viens en confiance absolue, en humilité totale. Je viens en souhaitant ne pas me sentir coupable d'être pratiquant ou pas pratiquant aux yeux de ceux qui ont la parole. Je viens en responsable de ma vie intérieure. Je viens en fraternité, en solidarité. Je me sens appartenir à l'Église avec un grand E, à l'Église en marche, à l'Église vivante. Je me considère catholique en marche. Je marche actuellement sur un chemin de Saint-François d'Assise. Donc c'est un pèlerinage que je fais toute seule avec ma sœur. J'ai déjà marché 600 km de Vézelay jusque Turin. Je compte continuer. Donc est-ce que ça fait partie de ce que vous appelez pratiquant ou pas? Voilà, tout ça c'est en vrac dans ma tête, dans ma vie intérieure.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu au micro de, voilà, de Radio Présence pour nous partager cela. Et puis bon pèlerinage à vous comme aux 20 000 personnes qui sont ici. Et puis on l'espère à tous ceux qui vous rejoindront. Puisqu'il n'y a pas Dominique Guilleux peut-être pour finir, on peut venir même le dernier jour.
Alors on peut venir même le dernier jour, mais je dirais pour vivre de façon optimale cette parenthèse de 4 jours.
Le plus tôt sera le mieux.
Il vaut mieux venir les 4 jours, mais il est évident qu'on peut aussi s'inscrire. Et on invite tous celles et ceux qui viennent à l'occasion du pèlerinage du Rosaire à rentrer dans cette logique du pèlerinage et à s'inscrire, même s'ils viennent pour un ou deux jours ou trois jours. Mais la véritable logique, c'est surtout quand on vient, comme la plupart des pèlerins, ces 20 000 pèlerins qui sont là ce matin, viennent de l'autorité de l'Hexagone, de la Corse, de la Réunion, des Antilles, de la Guyane, d'Haïti, etc.
Pour le trajet, c'est plus simple.
Plus pour 4 jours, pour une journée.
Vous vouliez reprendre la parole, peut-être pour finir, Aline Soignon ?
Oui, moi je voudrais dire que j'ai une image qui est assez forte pour ce pèlerinage, c'est un bouquet de fleurs. On apporte chacun une fleur qui est différente en fonction de l'endroit où on est, du cheminement que l'on a, et ce bouquet de fleurs qui est plein de fleurs très différentes les unes des autres, il est magnifique à la fin, et c'est ce qui nous nourrit au jour le jour.
Et ben voilà, rendez-vous. On ne fera pas d'émission de samedi en fin de pèlerinage, mais on imagine que, on espère pour vous, le bouquet sera beau. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Gilles Galbardi. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. On l'a retrouvée en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.